C'est la deuxième heure de ce 1281e Sweet Home Chicago. L'invité est Manu Galvin, pionnier de la guitare blues en France. Il a joué avec les plus grands. Ce passionné de guitare toujours actif, compagnon de route de longue date des grands Maxime Le Forestier et Jean-Jacques Milteau, par exemple, nous livre avec bonheur encore quelques belles tranches de vie et anecdotes avec une extrême gentillesse, une belle passion et un cœur gros comme ça. On évoque dans cette seconde partie de l'interview la partie matos. Alors les guitares, les amplis, les pédales d'effet, le côté acoustique ou électrique, que préfère Manu Galvin ? On évoque sa carrière solo et de chanteur, l'expérience de radio à TSF Jazz et de télé chez Nagui à Taratata. On parle de la présence discrète ou de la quasi-absence du blues dans les grands médias. On écoute quelques jeunes prodiges de la guitare repérés par Manu Galvin, le phénomène des vidéos de tutoriels musicaux sur le net auxquels il a participé, des vidéos durant la période du Covid. Et puis on termine avec un bon conseil à l'adresse des auditeurs de l'émission. Vous, la première partie de cette très belle interview de Manu Galvin a été diffusée la semaine dernière. Elle est disponible à la réécoute en podcast et en Mixcloud. Et puis on terminera l'émission avec la rubrique 50 Years After et le légendaire David Honeyboy Edwards pour le Catfish Blues qu'il avait enregistré en 1975. Et puis un ultime extrait du disque du mois de Tad Robinson. Manu Galvin, deuxième partie, c'est maintenant. Manu Galvin, voilà. on parle de guitare bien sûr, tu as donné des cours de guitare, tu as animé des stages de formation, des masterclass. Ouais. Je voulais savoir en quoi, pour toi, intrinsèquement, la transmission de ton art est-elle importante ? Qu'est-ce que l'action de formation t'apporte personnellement aussi ?
Alors, la première chose moi, qui me vient à l'idée, c'est que le fait d'enseigner, entre guillemets, quelque chose, de montrer quelque chose, en fait, c'est une sorte de... C'est comme si je consolidais ce que j'avais en moi. Le fait de l'expliquer à quelqu'un, ça t'éclaircit toi sur la chose en question. Alors, moi j'aime bien, j'ai toujours aimé moi, le travail d'atelier où j'expliquais à pas mal de gens. On a fait des stages dans le sud-ouest, où j'ai retrouvé des années, il y avait 22, 23 guitaristes à faire jouer en même temps. Alors, il y avait des choses un peu rigolotes. Il m'est arrivé d'avoir Chris Lancry comme aide, enfin, on était deux à faire le truc, tu vois, bon. Et donc ça, j'ai toujours aimé, moi, là, c'est le côté un peu la transmission de ça. Et puis, encore une fois, il m'est arrivé sur des stages sur 3 semaines, où il y avait des stages, par exemple, d'harmonie, d'expliquer un peu les rudiments de l'harmonie, un peu pour comprendre un peu comment ça marchait. La musique en général, si tu veux, tu vois, que ce soit le blues, la pop, le rock, enfin bon, tout ça, et ben le fait d'enseigner ce genre de choses, de montrer ça, tu te sens toi, ça t'éclaircit les idées.
Ouais. Ça t'apporte personnellement, ça t'enrichit aussi d'écouter.
Oui. Ouais. Juste pour ça, je te dis, ça consolide un peu le petit savoir que tu as sur les choses. Quand tu l'expliques, si en plus les gens comprennent, c'est que, de toute façon, si c'est clair pour toi, ça va finir par être clair pour eux. Normalement, c'est comme ça. Et ben donc, comme ça marchait en général, et ben moi, je me sentais un peu plus, c'est plus solide en moi, quoi.
Manu Galvin, j'ai été aidé pour la préparation de cette interview par deux amis qui sont musiciens dans la région normande, Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panucco, que je remercie ici. Et les trois questions qui arrivent sont de Laurent et Jean-Christophe. Est-ce que tu peux nous parler du matériel que tu utilises, les guitares surtout, Manu?
Alors, les guitares. Moi, j'ai une adoration. Les deux guitares qui, pour moi, sont mes adorations, c'est les modèles Gibson 335 et Fender Telecaster. Ça, c'est les guitares que j'affectionne. Alors, j'ai effectivement une Fender Telecaster que j'ai utilisée longtemps. J'ai une 335 qui doit dater de 67 que j'ai utilisée quelques fois, surtout en studio d'ailleurs pour faire les choses comme ça. Bon, et après, dans les acoustiques, j'ai longtemps tourné avec une Takamine qui est tellement pratique. Takamine, le son est tout à fait correct et surtout ça marche. Tu branches et t'as du son. C'est très bien comme ça. Bon, et puis depuis, j'ai eu la chance d'avoir, j'avais une Stratocaster, une série L que j'ai revendu l'année dernière parce que je la jouais pas assez, donc j'en suis séparé. Donc ça, c'est pour les guitares. Si tu veux, j'utilise ce genre de choses. Mmh. Tout récemment, il y a une marque française qui m'a transmis 2-3 guitares que j'ai jouées. Tu sais, ces fameuses guitares qui sont très bon marché et des fois, tu tombes sur des modèles qui marchent très bien. C'est-à-dire que là, j'ai reçu une Telecaster. C'est Prodeep qui m'a envoyé une Telecaster dont je suis très content, mais vraiment très content. Et 2 Strat différentes, une avec 3 micros, l'autre avec 3 micros mais un double, enfin bon bref, pas après dans les détails techniques, c'est pas la peine, mais voilà, donc j'utilise, c'est toutes les guitares que j'utilise, c'est ce genre de choses. Dans les acoustiques, j'ai aussi une Martin, une D18S qui sonne extrêmement bien, que j'utilise aussi pour l'enregistrement sur certains, en studio un peu, voilà, les choses comme ça, j'utilise beaucoup. Ça c'est pour les guitares, et sinon les amplis, écoute, j'avais à la fois un ampli qui s'appelle Tone King qui sonne mais vraiment terrible.
Ah ouais, je connais pas ça.
Tone King, oui, en plus
c'est américain.
Oui, c'est américain, c'est des trucs qui sont comme ils disent point par point, tu sais, les trucs qui sont faits à la main entièrement, machin.
D'accord, bon,
voilà,
ouais.
Qui sonnent très bien. Et j'ai aussi un ampli de marque Magnatone.
Ah oui, d'accord.
Magnatone, voilà. qui est, ça pèse carrément un âne mort. Donc je sais pas si je pourrais encore le prendre parce que je peux plus, j'ai du mal à soulever les objets.
Il faut embaucher un porteur, effectivement, pour ce genre.
Oui, voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, ça c'est pour les amplis. Et puis pour les effets, j'ai eu pas mal de choses différentes, des petites, tu sais, des pédales que tu utilises, des tube screamers, des choses comme ça. Et puis depuis un an et demi, j'ai fait l'acquisition d'un pédalier fractal qui s'appelle FM9, qui est absolument sensationnel dans la simulation d'ampli. Écoute, franchement, je mets au défi les gens qui sont, tu vois, qui connaissent bien les amplis, des choses comme ça. Je les mets au défi de faire la différence entre le pédalier en question et le vrai ampli.
Ah oui, alors voilà, techniquement, on a une très très belle réponse de ta part. Et puis, je note côté acoustique, ta Camille, Martine et pas Taylor. Alors, tu as déjà essayé de jouer sur Taylor?
J'ai déjà essayé comme ça, mais j'ai jamais passé le pas d'acheter une Taylor. Parce qu'en fait, si tu veux, alors, juste une chose dans les acoustiques, celle que j'ai utilisée pendant toute la tournée avec Maxime Le Forestier, c'est une guitare qui est faite par un luthier français qui s'appelle Alain Keguiner, qui est basé à Paris dans le 12e arrondissement. Et la guitare, si tu veux, qui m'a faite en 2001, c'est la meilleure guitare que je n'ai jamais jouée.
Ah oui, ça, c'est les guitares de luthier, quoi. C'est des guitares qui sont sur mesure, ça. J'allais dire.
Exactement, à cette époque-là. À l'époque, si tu veux, je me souviens, j'avais été voir Alain, c'est peut-être mon meilleur ami. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, il fait partie de mon cercle très restreint, si tu veux, de là, les tatoueurs, trois meilleurs potes, il fait partie de ce trio. Alain, à l'époque, en 2001, ma vie, il y a eu un tournant dans ma vie, si tu veux, et j'avais été le voir, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de me faire plaisir, je voudrais que tu me fasses une guitare, et la guitare qui m'a sorti, écoute, c'est le paradis. Hein. Franchement, c'est le paradis. Elle sonne terrible. Et d'ailleurs, tout le long de la tournée avec Le Forestier, c'est la guitare que j'utilise régulièrement, mais vraiment régulièrement. Les gens viennent te voir à la fin en te disant, la guitare, elle sonne terrible. Donc, je sais que dans ces cas-là, je leur dis, il y a la guitare et il y a le sonorisateur aussi, qui s'appelle Patrice Desmar, qui faisait un son absolument fabuleux. Je leur dis, voilà, c'est la combinaison des deux. Voilà.
C'est une maison bleue à danser à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route. Et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise Deluc, Psyvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tom à la guitare, Phil à la kéna, jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue accroché à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi.
et effectivement, et après dans la salle, on a l'impression d'être dans ton salon, Manu.
C'est vraiment.
Manu Galvin, j'ai une autre question posée par les amis Jean-Christophe et Laurent par rapport justement à cette approche musicale guitaristique que tu as. Est-ce que dans l'âme, tu ne serais pas davantage un musicien acoustique plutôt qu'électrique ?
Alors, je crois pas. Alors, c'est drôle parce que quand on a vu beaucoup jouer l'acoustique avec Jean-Jacques Milteau, par exemple, on a fait des centaines et des centaines de concerts en duo.
Ouais.
Et pas seulement en France, on est parti beaucoup à l'étranger, puisque entre 95, on va dire, et allez, 94 et 2000, on a dû faire quelque chose comme 80 pays.
Ah oui.
Voilà, donc, on a beaucoup tourné, tu dis beaucoup en duo. Hein. Et c'était la guitare que j'en ai à chaque fois. C'est celle-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont vu avec ça, et au bout d'un moment, on t'assimile, on te dit, bah oui, lui, il joue cette guitare-là. En fait, pour moi, je suis plus à l'aise sur une électrique. Tu vois, je suis plus, voilà, je préfère vraiment jouer électrique. Et moi, dans l'âme, je suis plus un guitariste électrique qu'acoustique. C'est la première guitare que j'ai achetée quand j'étais vraiment, quand j'ai commencé à jouer, c'était une SG. J'avais fait le voyage en Angleterre, dans une boutique, j'avais acheté une SG. Et pour moi, c'était, j'avais eu Mick Taylor, en fait, sur des, tu vois, des,
oui,
des frais de concert, des choses comme ça, avec les Stones qui jouaient ce genre de guitare, et je voulais ça. Et ben, donc, je l'ai eu, c'est la première guitare. J'ai commencé par ça.
Avant la guitare même de,
d'acoustique.
La guitare voilà. D'Angus Young aussi.
Voilà, voilà, tu vois, ce genre de choses. Voilà. Donc, si tu veux, moi, c'est, mon âme, c'est vraiment, pour moi, c'est l'électrique, quoi, tu vois. En revanche, je ne suis pas un, bien que préférant l'électrique, a priori, je suis pas du tout, comment dire, un technicien du son, des pédales, tu sais, t'as des gens qui font ça, à merveille, quoi, qui te combinent les effets.
Oui, qui sont véritables pilotes de Boeing,
voilà.
En fait, hein.
Moi, si tu veux, j'ai besoin d'avoir, une petite sature et un petit délai, et dans l'ampli, voilà, c'est là-dedans que je suis le plus à l'aise, si tu veux. Alors, je suis toujours confronté, dans ma vie, hein, à des musiciens qui, au contraire, eux, manient les effets parfaitement bien. Et il y a, au moment du Covid, j'ai eu la chance, j'ai fait un album avec un guitariste bordelais qui s'appelle Christophe Marois,
oui,
qui est un technicien de tout. Tu sais, il y a des gens comme ça, tu croises à un moment donné dans ta vie des couteaux suisses. Voilà. Lui, il est excellentissime guitariste, il mixe des albums à la perfection, il est propre de photos, de vidéos, mais c'est inimaginable, voilà. Et lui, voilà, il fait partie des guitaristes, tu veux, qui, tu lui donnes un pédalier, en l'espace de 2 heures, il te fait marcher la machine à 150% des possibilités.
Il y a des gens surdoués comme ça qu'on peut rencontrer, notamment dans le domaine musical. Ouais.
Voilà, et c'est pas du tout mon truc. Pas du tout mon truc. Voilà. Moi, j'ai besoin que ça marche tout de suite, quoi. Voilà.
J'ai d'autres questions posées par Laurent et Jean-Christophe, et notamment, est-ce que tu as été déjà tenté, Manu Galvin, par une carrière solo, et où en est ta carrière de chanteur ?
Oh là là. Alors, carrière solo, tu sais, à force d'accompagner des gens, c'est quelque chose, si tu veux, il y a un côté, j'ai toujours, quand je parle de ce genre de choses, je dis, c'est peut-être par lâcheté, c'est plus confortable de te mettre derrière les gens, si tu veux, de laisser eux aller au charbon, prendre des risques, et puis toi t'accompagnes derrière, bon... Mais tu, encore une fois, j'ai toujours dit, tu fais ça du mieux que tu peux. Mais c'est comme ça. Et les fois où il m'a été donné, moi, de faire quelque chose, j'ai l'impression de marcher, d'être un funambule, tu vois. Tu dis qu'il va tomber à n'importe quel moment. Alors, si tu veux, j'ai fait 2 albums sous mon nom,
oui.
3 albums sous mon nom. Le premier album, c'était justement les morceaux de Maxime Le Forestier, qui s'appelait La guitare et autres Maxime. Ça s'appelait comme ça, à l'époque où j'accompagnais, c'était pendant une tournée avec Maxime Le Forestier, où j'avais été aidé dans ce projet par, à la fois, Jean-Jacques Mitteau, Jean-Yves D'Angelo. Voilà, c'est un album que j'avais fait à cette époque-là, où il y avait que des chansons de Maxime, mais instrumentales. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Ensuite, j'ai fait un album qui s'appelait Acoustique Blues Guitare, où il rendait un peu hommage à tous les gens que j'ai adorés. Je sais pas, tout à l'heure on parlait de Muddy Waters, il y a plein de gens en fait. Robert Johnson, voilà, par exemple, voilà, plein de gens comme ça. Donc c'était entièrement acoustique. Il y avait aussi du dobro, tout ça, donc j'ai fait ça. Et après, dans les années, début des années 2000, j'ai fait un album pour enfants qui s'appelait Chasseurs de nuages, où il y a que des comptines enfantines qui sont des reprises, mais que j'ai arrangées différemment, bien évidemment, que j'ai harmonisé un peu à ma manière. Sur cet album, il y avait trois morceaux, trois compositions personnelles où j'avais fait le texte et la musique. Et sur ce projet-là, j'avais été entouré par de très bons musiciens. Je parle de Yves Torchinski qui était là entre autres, Denis Benaroche qui faisait les percs, Michel Aumont qui m'aidait aussi sur les guitares. Enfin voilà, bon, on était quand même un certain nombre. Stéphane Guillaume, le saxophoniste de jazz, qui est quand même excellentissime. Voilà, entre autres, hein, c'est un album que j'ai fait, album pour enfants.
Des à coudre et trois gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards. Des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté.
Alors ça, c'est les trois choses comme ça. J'ai fait un album pendant le Covid avec Christophe Marois, dont je t'ai parlé tout à l'heure.
Voilà.
C'est un album instrumental à 95%, puisqu'il y a un morceau chanté par notre ami Jacques Mercier, avec qui voilà, on termine l'album. Mais sinon, le reste, c'est des compos personnels, tout ça. L'album s'appelle Échappé, avec Christophe Marois. Et c'est tout pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. Et je pense pas faire d'autres choses maintenant, parce que je te dis, j'ai quelques soucis de santé, oui, qui m'empêchent un peu de faire des choses... Voilà, mais en tout cas, ça a été ça jusqu'ici. Alors, chanter, je me suis jamais senti vraiment d'avoir la prétention d'être chanteur, si tu veux. Moi, les clubs que j'ai joués, les clubs où je me produisais à Paris, par exemple, un club comme Utopia, où j'ai fait des centaines et des centaines de soirées, où je chantais par nécessité, mais c'est un truc que j'aime faire. Mais dès que t'es confronté, tu veux, quand t'as un autre vrai chanteur dans le groupe, bah, tu t'éclipses un petit peu, tu vois.
Le syndrome de l'imposteur, peut-être, là,
bah, à ce niveau-là. Bah, tu dis, voilà, bon, tu vois, c'est... C'est comme ça.
Quand il y a quelqu'un comme Patrick Verbeek, par exemple, ce que ressent aussi Jean-Jacques Milteau, peut-être, je ne sais pas.
Oui, je pense aussi. Oui, j'en ai jamais parlé avec lui comme ça, mais je pense que c'est ça aussi. Il chantait un peu par nécessité. Je pense qu'il aime ça. Je pense qu'il aime ça, mais il se prétend pas chanteur.
Ouais, tu vois, tout à fait. À propos de ta carrière perso, Manu, j'ai une dernière question. Que deviennent les Raptous ?
Eh ben, les Raptous, que deviennent les Raptous ? Alors, bah, y a eu beaucoup de gens malades, ça se décime un petit peu, puisque si tu veux, comment te dire ? Le groupe, à l'origine, c'est Serge Malik qui a eu l'idée de faire ce groupe, le guitariste Serge Malik. On était trois guitares, c'était voilà, Serge Malik, Basile Leroux et moi-même. Groupe l'avantage de ce groupe, c'est que les gens qui te voyaient avaient l'impression de voir la scène en 16/9, tu vois, parce qu'on est tous les trois à la taille. C'était quelque chose de, voilà. Et puis, à côté de ça, bah, après, on avait Éric Lafont à la batterie, maintenant Paganotti à la basse, Franck Sidbon, enfin, bon, voilà. Bon. Le problème, il est que maintenant, bah, on prend tous de l'âge, et il y en a pas mal qui ont des problèmes de santé, et puis il y a même notre ami Marc Chantreau, percussionniste, qui n'est plus de ce monde. Donc, ça va être difficile de refaire des concerts avec des Raptous. Pour toutes ces raisons, parce qu'on est tous dans un état un peu moyen, quoi. Mais écoute, on sait jamais. Je sais pas. Faudrait y réfléchir, mais je sais pas comment on pourrait faire, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, on a beaucoup rigolé avec ce groupe, on a fait beaucoup de musique.
Oui, j'ai l'impression que c'était un groupe plaisir, essentiellement.
Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ouais.
Manu Galvin, j'ai d'autres questions par rapport à certains médias comme la radio, la télé, oui. L'écriture. Alors, pour la radio, on est à la radio en ce moment, mais tu travailles aussi, tu as une expérience en radio, notamment avec TSF Jazz, avec Minaret Solsimi. Est-ce que oui. Tu peux nous parler de cette expérience-là? Pourquoi est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as été sollicité? Comment s'est née cette aventure-là?
Alors, pour dire le début de l'émission, oh, c'est quoi, 2012 peut-être, je sais plus, j'ai un doute, je sais plus. En fait, Jean-Jacques Milteau, qui travaillait, lui, pour TSF, qui avait l'émission Bon Temps Roulé.
Mais oui, qui existe toujours, bien sûr.
Voilà.
Avec Johan Elgarde.
Voilà. Et il m'avait dit à une époque, il me dit, mais tu sais, essaie de faire une émission sur la guitare. Sur TSF, il y en a pas, ça serait pas mal. Bon, alors moi, si tu veux, on se connaît pas beaucoup, mais je peux te dire qu'il me faut un pied de biche pour me sortir de chez moi, tu vois, c'est un truc, bon. Et puis toujours pareil, le fait d'être d'un coup devant, c'est quelque chose, voilà. Et bon. Et il m'a dit, mais fais un essai. Donc j'ai essayé. Et bien, il y avait Sébastien Vidal qui dit, j'ai la radio, m'a dit, mais oui, ça serait bien de faire une émission. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans, je crois. J'ai fait, c'est une émission, c'était tous les samedis. Et en fait, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Parce que, du coup, bah, tu fais des recherches. J'avais des playlists à faire, des choses comme ça. Enfin, tu connais le truc.
Ben oui.
Et donc, t'as des points de repère. Au bout d'un moment, tu recommences à repérer les guitaristes. T'en as certains que tu mets régulièrement, tu vois, qui sont là pour articuler un peu l'émission. Et tu parles d'anecdotes, de choses comme ça.
Le seul club de jazz ouvert 24 heures sur 24.
Chuck Love, un guitariste remarquable, Lyrit Nour, ou même le grand Wes Montgomery, eh oui, il y a Pat Kelly, pardon. Excuse-moi, je vais recommencer l'annonce. Pat Kelly, c'est venu Pat Kelly. Bon, donc on reprend ça, d'accord? C'est parti, je peux y aller?
Ah bah oui, c'est arrangé.
Allez, c'est parti, alors.
Vous écoutez TSF Jazz, la seule radio 100% jazz.
Et j'ai pris beaucoup de plaisir, ça me demandait beaucoup de travail, hein, parce que je suis pas très doué, mais pour faire une émission qui durait 1 heure, j'avais à peu près, j'avais 1 journée et demie de préparation.
Ah oui, ça m'étonne pas.
Une journée et demie, mais vraiment à faire que ça, ah oui. Donc pas de guitare en attendant, t'es dans les bouquins, t'es dans Internet, tu cherches, voilà, les informations, à les vérifier quand même avant de dire des bêtises, des choses comme ça, et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, et j'ai découvert beaucoup de guitaristes.
Donc c'est à cette occasion que tu t'es mis au clavier plutôt qu'à la guitare, effectivement, pour les recherches sur Internet. C'est vrai que c'est passionnant.
Mais vraiment.
Quand on prépare une interview, quand on la fait, quand on la nettoie, quand on la met en musique, voilà, ce sont des activités qui sont vraiment plaisantes et enrichissantes. Et tu as aussi fait de la télé, Manu Galvin, notamment pour l'émission Taratata de Nagui, une émission qui existe toujours. je voulais savoir depuis, je crois, sa création vers 93, comment est-ce que tu l'as vu évoluer, cette émission, et puis dans quel sens ?
Alors, comment je l'ai vu évoluer ? Écoute, je me souviens, la première émission où j'étais, moi, donc téléspectateur,
ouais.
Je crois que la première que j'ai vue, c'était Bernard Lavilliers qui était invité. J'ai halluciné, c'était une émission que j'ai trouvée fabuleuse.
Mmh.
Fabuleuse parce que de mettre la musique à ce point en avant, voilà, j'ai adoré ça. Franchement, c'était pour moi une très, très grande émission. Mais vraiment, tu vois. Et puis, j'ai eu la chance d'y participer. Alors là, pareil, avec des artistes assez divers, quoi, tu vois. Donc ça, bah, très bien. Et maintenant, je trouve que l'évolution, ça me touche moins. J'aime bien le principe, parce que les gens jouent en direct. Ça, déjà, c'est à noter. Ça me touche moins. Je vois plus une vitrine pour vendre des albums, enfin, pour vendre des choses, plus que autour de la musique elle-même. Je sais pas comment te dire. Tu sais... à une époque, quel âge tu as, mais je sais pas si tu te souviens d'une émission qui s'appelait Pop 2,
alors,
qui passait à la télévision.
Alors, moi qui suis tout jeune, je suis né en 63, mais ça me parle pas. Je suis désolé,
alors,
Manu.
Non, bah écoute, c'était une émission qui s'appelait Pop 2.
Ouais.
Pop 2, où il y avait plein de groupes de rock et des trucs qui passaient, et c'était, j'étais devant l'écran de télé, moi, à l'époque, et je voyais tous ces groupes, tu vois, qu'on entendait parler, et les gens étaient là, tu vois, Pink Floyd, on voyait,
Alors voilà, ça, c'est,
des trucs comme ça.
On est au début des années 70, effectivement, moi, c'était plutôt, la télé, c'était plutôt les enfants du rock, de Cohen, etc.
Bon, mais tu vois, il y avait encore quelque chose où on mettait en avant la musique, et là, je dois reconnaître que maintenant, quand je vois Taratata, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est plus un truc, entre guillemets, un peu commercial.
Ouais, un peu obligé.
On vend quelque chose. Attention, mais encore une fois, les émissions de ça, il n'y en a pas assez. Il a la chance, c'est Nagui qui présente ça.
Oui.
L'idée est topissime. Je suis d'accord. C'est vachement bien. Mais ça me touche moins. Voilà. Je regarde moins maintenant ces émissions-là. Je regarde moins ça, tu vois. Mais je me souviens, alors, moi, j'ai fait ça plusieurs fois, mais un des grands souvenirs, c'est moi qui suis fan, par exemple, les gens que j'adore, il y avait James Taylor, le guitariste,
oui.
Tu vois, bon, moi je suis fan, mais depuis tellement longtemps, et ben une fois, je me souviens, je faisais un Taratata avec Alain Souchon, et à la même émission, il y avait James Taylor.
Et il n'y avait pas Carole King par hasard aussi?
Non, il était venu tout seul.
Ça aurait pu être bien.
Tu vois, j'ai un souvenir de cette émission-là, tu vois.
Down and trouble, and you need some loving care, and nothing is going right. Just close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call on me now, and I'll be there, yes, I'll be there. You got a friend.
Moi, c'était... Et tu vois, voilà, il n'y a que là qu'on voyait ça.
Ouais, c'est,
tu te dis, bah, bravo, voilà, pour les gens qui mettent cette émission au point, tu vois, c'est génial. Et encore une fois, maintenant, à l'époque, je me serais arrangé pour être devant mon poste de télé, et là, maintenant, je...
Moi, maintenant, d'accord.
Voilà.
Manu Galva, comment est-ce que tu expliques la sous-médiatisation du blues qui perdure malgré tout, qui est pourtant la forme musicale matrice de quasiment toutes celles qui ont suivi?
Oh là, vaste question. Ça. Comment oui. on explique ? Je ne sais pas comment on peut expliquer ça.
On est dans les médias, effectivement. Et là, ouais. on évoquait à l'instant l'émission Taratata, qui a aussi fait la part belle au blues parfois. Moi, je me souviens d'une très belle interview de Lucky Peterson, mais c'était il y a 30 ans.
Oui.
Et le blues, ça reste sous-jacent. Les petites émissions de blues, elles sont très peu diffusées, on va dire. Et voilà. Et puis dans les grands médias, j'ai l'impression qu'on entend du blues surtout dans les pubs TV. Et puis après, le reste.
Exactement. En fait, c'est une musique de fond. C'est quelque chose qui sert à illustrer un propos, mais vraiment. C'est un symbole, en gros c'est ça. Bah écoute, je sais pas comment je peux l'expliquer, mais peut-être que déjà la musique se vend pas, ça se vend de moins en moins, et puis on en entend tellement partout maintenant, de la musique en général je parle, mais ça se vend pas beaucoup, tout ce qui est CD et tout ça, les gens vont dans les concerts, surtout c'est ça qui se passe maintenant. Bon, si tu veux, alors le blues, déjà que ce qui se vend encore un peu maintenant, c'est le rap, c'est les choses comme ça. Le blues, ça intéresse que les gens qui en sont amoureux depuis tellement longtemps. Mais je suis pas certain qu'il y ait un public très nombreux pour cette musique-là. Et je crois que c'est surtout dû à ça. Les gens n'invitent pas spécialement des musiciens maintenant à jouer ce genre de musique. Enfin, il me semble. C'est pas quelque chose qui, d'un point de vue malheureusement mercantile, c'est pas quelque chose d'intéressant. Enfin, je crois que c'est ça.
Manu Galvin, en 2004, tu as coécrit un ouvrage qui s'appelle Guitariste, une encyclopédie vivante de la guitare. Je voulais savoir si une mise à jour est à l'ordre du jour, et si oui, quels sont les guitaristes ayant émergé depuis cette vingtaine d'années pourraient y figurer, selon toi ?
Ah, écoute, je sais pas du tout, parce que j'avais fait quelque chose qui s'appelait, il y avait un genre de livre qui s'appelait déjà Autour de la guitare.
Oui.
C'était Thierry Lamouche, dessinateur, qui avait mis ça au point, où j'avais fait un petit texte et un dessin. Maintenant, l'encyclopédie de la guitare, je sais plus ce que j'avais fait dedans, et précisément. Alors, pour te dire, il y a peut-être d'autres éditions, il y a peut-être un second volume qui est paru, mais que je n'ai pas reçu. Je peux pas te dire du tout où ça en est, ça. Je sais pas si autre chose est prévu, je sais pas.
En tout cas, à titre personnel, est-ce que tu rajouterais des guitaristes, qui sont apparus sur la scène depuis cette époque-là?
Je sais pas ceux qui sont déjà dans le bouquin. De mémoire, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais en tout cas, je sais qu'autour de moi, il y a tellement d'excellentissimes guitaristes, quoi. Il y a vraiment de très, très, très bons.
Parmi la nouvelle scène, les jeunes, voilà, c'est ça.
Je sais pas, dans des styles un peu différents. Jouer Antoine Boyer, tu sais, ce guitariste, un jeune prodige qui joue, c'est monstrueux, qui joue terrible. Il y a plein de gens, je saurais pas te dire vraiment là.
Déjà deux noms, c'est bien.
Mais j'ai pas un guitariste comme Solo Razaf que tu connais peut-être.
Non plus.
Non. Qui est un guitariste malgache, qui a un univers tellement particulier, tu veux, qui joue des trucs, il n'y a que lui qui joue ça. Par exemple, des gens comme ça, je ne sais pas s'ils ont fait partie d'une des éditions anciennes ou nouvelles, je ne sais pas, mais voilà, c'est des gens dont on mérite de parler, forcément, quoi.
Est-ce que tu as constaté une évolution dans la façon dont l'instrument guitare est appréhendé, ou non d'ailleurs, par les nouvelles générations, justement ?
Écoute, en tout cas, ce qui m'a beaucoup frappé, mais ça, c'est chaque époque, si tu veux, évolue dans ce sens-là, c'est que les moyens mis à disposition des gens qui veulent travailler sont tellement énormes. Ça fait toujours un peu vieux con de dire ça, mais quand j'ai commencé à jouer, je me souviens, on allait dans les boutiques de disques, et il y avait des méthodes de guitare, tu vois. Et je me souviens avoir regardé, avoir pris, avoir potassé un petit peu une méthode qu'avait faite Alain Giroux, par exemple.
Oui.
Tu vois, j'avais regardé ce genre de méthode. Michel Aumont, déjà très jeune, avait déjà fait une méthode de guitare. C'était des choses comme ça. Après, quand sont arrivés les VHS, voilà, c'était une révolution pour moi d'avoir un magnétoscope et avoir une VHS. Ouais. Je me souviens avoir eu dans les mains une VHS d'un guitariste moi, que je vénère, mais à un point, qui est Larry Carlton.
Oui.
Quand j'ai eu ça, et puis j'ai eu la chance, entre parenthèses...
Mais il t'a rendu hommage aussi, Larry Carlton, je crois.
Bah, je sais pas, mais en tout cas, on a joué ensemble au Festival des Puces à Paris. Bon, c'est pareil, un souvenir tellement dingue. Mais tu vois, dans les VHS, quand j'avais regardé ça, cette cassette, quand j'avais usé de regarder ce genre de choses. Maintenant, je vois l'évolution. Tu as un clic de souris et t'as tous les guitaristes de la Terre qui décident comment ils jouent.
C'est ça.
Ce qui fait que pour apprendre, c'est tellement monstrueux. Et tu vois les gens maintenant de plus en plus jeunes. Les types ont un bagage musical, mais absolument phénoménal. Phénoménal. Je vois de temps en temps passer sur Facebook, je suis pas un accro, un forcené de Facebook, et de temps en temps, il m'arrive de regarder, tu sais, je vois, j'ai mon ami percussionniste, il s'appelle François Constantin, qui fait tous les lundis une jam au Baiser Salé, et de temps en temps, il m'arrive de regarder un peu les petits bouts de vidéos qui sont là, et je vois les musiciens qui passent, qui sont très jeunes, mais ce sont des tueurs tous, quoi. Comme ils jouent, les types, mais c'est hallucinant. Et tu te dis, mais de plus en plus jeunes, les types ont un bagage de plus en plus conséquent.
Et ça, c'est grâce à Internet, en grande partie, en fait.
Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est lui, il a tout ce que tu veux maintenant. Avant, pour avoir une VHS, il fallait la commander, il fallait la chercher. Puis une fois, tu tombais dessus par hasard dans une boutique, mais c'était pas donné non plus, tu vois, c'est un vrai investissement.
Oui.
Maintenant, tu payes ton abonnement Internet, t'as tout ce que tu veux, tu vois, voilà, quoi. Moi, de mon côté, j'ai participé à des cours de musique en ligne avec la maison, enfin, ça s'appelle eMusic School.
Bonjour, je me présente, je suis Manu Galvin, guitariste. Un style que j'affectionne particulièrement, c'est le blues. Je sais que c'est un style que vous êtes nombreux à apprécier et j'en suis ravi. Je vous expliquerai un petit peu les accords que l'on peut employer, la manière de les jouer, les différentes gammes à notre disposition, comment agencer un peu tout ça, le tout sur des playbacks qui vous aideront à progresser. Cela vous dit d'en connaître un petit peu plus, en tout cas de connaître ce qui m'a poussé à jouer et puis la façon dont je joue ce genre de choses, je vous donne rendez-vous sur eMusic-school.com.
eMusic School, tu vois, où il y a plein de guitaristes, mais pas que ça. Il y a de la MAO, il y a des cours de basse, des cours de composition, de piano, de tout, de chant, il y a tout. Et dans les guitaristes, il y en a une flopée qui ont fait des cours là-bas. Moi, j'ai fait ça il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Où j'avais fait cette vidéo, j'en ai pas refait depuis, mais je vois le nombre de... Tu vois, quand tu connectes sur ce site, la eMusic School, quand tu vois la qualité de l'image et la clarté, si tu vois, des explications, tu te dis, mais oh, là, j'aurais aimé avoir ça à l'époque.
Ça veut dire peut-être que quelque part, l'exposition médiatique dont on attendait les retombées, qui était la télé, la radio, etc., et puis la vente des disques, maintenant, on est passé sur le nombre de vues sur YouTube, par exemple, on est sur un étalon complètement différent, et le fait d'émerger, le fait d'arriver à sortir de la masse, à grimper tout en haut de la pyramide, ça devient de plus en plus dingue, de plus en plus plus compliqué, puisqu'il y a un nombre croissant, tu viens de le dire, d'artistes qui se montrent sur la toile.
Je suis d'accord avec toi. Par exemple, je me souviens aussi à l'époque du Covid, où les gens, ça me fatiguait au bout d'un moment, dès que tu ouvrais ton ordinateur, tu tombais sur les vidéos de tripotés de guitaristes qui faisaient des trucs parce qu'il fallait absolument exister, il faut communiquer sans arrêt.
Il fallait exister.
Alors, mais là, il y a une overdose au bout d'un moment. Il y a une overdose, c'est-à-dire en fait, tu ne vois que ça. Au bout d'un moment, ça dessert, à mon avis, hein, ça dessert. C'est-à-dire quand tu te fais un... Non, pas rare, mais ça veut dire quand tu fais quelques apparitions de temps en temps, on peut éventuellement apprécier. Quand t'es là tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, tu vois, mais je sais que je regarde plus, je passe à vie. Tu vois, je vois des trucs comme ça, je m'arrête plus.
Tu zappes.
Je passe, mais oui, c'est pas, tu vois. Mais tout le monde fait ça, tout le monde fait. Et surtout, Internet, ça a permis à des guitaristes. Alors déjà, il y a le haut du panier, t'as les gens qui jouent terrible, mais t'as tout le reste, en même temps, des gens qui jouent de manière très moyenne, tu vois, qui te font des vidéos, tu dis, mais à quoi ça sert?
Voilà,
oui. Ben, y a tout quand je vois des vidéos qui passent, et j'entends pour la 15 000e fois le chorus de Mark Knopfler sur Sultan of Swing, tu vois, tu te dis, bon, ça va, on a compris, tu vois, ouais, tout le monde le joue, ouais. Mais tout le monde communique, faut absolument mettre un truc, tu vois, et là, au bout d'un moment, ça gave un peu, quoi, c'est-à-dire, c'est, tu vois, il y a tellement pléthore, si tu veux, de propositions que, bah, tu passes un peu à côté, au bout d'un moment, t'as très peu de gens qui émergent de ça, quoi.
Ouais, trop de choix, peut-être tue le choix, finalement.
Mais exactement, exactement.
Il me reste trois questions, Manu Galvin. La première des trois, ce serait, est-ce que tu as pensé à écrire tes mémoires? Est-ce que tu as commencé?
En vrai, tu me fais peur, là.
Il n'y a pas d'âge pour écrire ses mémoires. On peut le faire à 35 ans.
Non, j'ai pas pensé à faire ça. C'est pas quelque chose. Non, je suis pas quelqu'un qui.
Toi qui aimes transmettre, toi qui aimes partager.
Oui, j'aime transmettre, mais c'est pas. J'ai jamais pensé à faire ce genre de choses. Mmh. Si tu veux, tu sais, j'ai. Pareil, est-ce que c'est prétentieux de dire que tu ne l'es pas? je ne l'ai pas, mais...
Excuse-moi
mais
par exemple, de vous demander pardon.
Non, mais écoute, pour te dire, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait d'avoir croisé Larry Carlton au Festival des Puces à Paris. Mm-hmm. Quand j'étais parlé avec lui, j'étais comme une groupie, quoi, tu vois, j'étais mais dans un état, tu vois, t'imaginer.
Je vois très
bien. J'étais le voir, j'ai changé juste mes quelques phrases. Je lui dis bonjour, et je lui disais que si je fais ce métier-là, je lui dis, c'est grâce ou à cause de gens comme toi. Oui. Et voilà, alors, il était, alors, les Américains, toujours, yeah, oh, really, yeah, really. Bon, ok, d'accord. Mais je lui expliquais, j'avais du mal à lui dire, je lui dis, tu sais, il m'arrive de faire, je lance le mot, je lui dis, il m'est arrivé de faire des masterclass, au moment où je dis ça, pour moi, la masterclass, c'est lui que j'ai en face de moi et qui l'ai fait. Oui. Et je suis pas à ce niveau-là. Et je lui dis, non, pardon, pas de masterclass, disons, je fais des ateliers, je fais des réunions de guitaristes. Je lui dis, tu vois, c'est, parce que je peux pas, tu vois, pour moi, c'est pas ça, tu vois. Bon. Et j'expliquais que voilà, je mettais toujours au moins un morceau à lui, je lui disais lequel je mettais et pourquoi je mettais ce morceau-là. J'expliquais ça. Bon, et le beau souvenir, c'est quand il est parti, il a dit au revoir à tout le monde, il est venu vers moi, exprès, et il m'a serré la main très chaleureusement en me disant « Merci pour tes mots et prends soin de toi ». C'est juste ces trucs-là, moi, ça m'a fait le mois qu'a suivi, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein.
C'est un adoubement extraordinaire.
Mais moi, ça m'a beaucoup touché. Alors, si tu veux maintenant, ça me plairait de lire les mémoires de Larry Carlton. Je suis pas certain qu'on aime lire les mémoires de Manu Galvin.
Attends. Il y a tellement de choses à apprendre dans tout ce que tu dis depuis le début de cette interview, notamment Manu, franchement. Non. Voilà. Mais peut-être, je ne sais pas. Ça peut prendre aussi une autre forme. Hein. Ça peut être un triple DVD, je ne sais pas.
En tout cas, là, je vais avoir un peu plus de temps devant moi, donc peut-être, je sais pas, je vais réfléchir, je verrai bien.
Alors justement, ça m'amène à l'avant-dernière question, Manu Galvin. Quelles sont tes activités présentes, tes projets dans un futur proche?
Écoute, alors au risque de te décevoir, j'ai pratiquement pas de projet à venir. Là, je viens de terminer la tournée de Le Forestier, et je vais pas rentrer dans les détails, mais je te dis, j'ai quelques soucis de santé qui vont m'empêcher de faire beaucoup de musique, en tout cas dans la forme de celle que j'ai pratiquée jusqu'à maintenant. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc les projets, j'ai rien dans l'avenir proche. Enfin, je réfléchisse un peu à voir ce que je peux faire, mais pour l'instant, ça va être très difficile. Donc j'en suis là. Écoute, pour l'instant, tu vois, les seuls rendez-vous que j'ai, c'est pas les rendez-vous musicaux, c'est les rendez-vous médicaux.
Médicaux, ou amicaux parfois quand même, peut-être.
Oui, aussi, voilà. Mais oui. Voilà où j'en suis.
Et puis, en tout dernier, là, ça va être une question vraiment ouverte. Est-ce que tu souhaiterais passer un message particulier aux auditeurs de Sweet Home Chicago, en guise de conclusion de cette interview, Manu Galvin?
Je dirais... Les gens qui écoutent, si tu veux, ces émissions, je pense que c'est les gens qui aiment la musique, qui aiment le blues, qui aiment la soul musique. Et je leur dirais, en fait, il faut jouer, absolument jouer, et surtout en groupe. En groupe, parce que ce qui est important pour moi, c'est le partage, c'est de se retrouver avec d'autres gens, et c'est comme ça qu'on avance. Je crois que c'est ça. Donc c'est surtout pratiquer la musique, l'écouter bien sûr, l'apprécier, mais la pratiquer le plus possible avec d'autres. Voilà.
Ça c'est un bon mot de la fin, une interview passionnante et très enrichissante grâce à toi Manu. Manu Galvin.
Je t'en remercie.
Merci beaucoup Manu Galvin dans Sweet Home Chicago. Et puis à très bientôt sur la route du blues, je l'espère en tout cas.
À très bientôt Marc, merci à toi.
Merci Manu, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
I've seen the day turn into night, black memories in the moonlight. I know the dawn will end the strife and breed new hope into my life. Drifting on a cloud, smoke in my eyes. Why should we be choosing sides? Hazy dreams of a glory ride, tears of the rainbows of the love inside. Am I on your side?
Are you really on my mind?
Do we need to ask?
Ask all the time.
There was no color, but the color of love. There is some light when it was dark. I'll take acceptance for a star. Until we all join hand in hand into the rainbow human band. Am I on your side?
Are you really on my mind?
Do we need to ask?
Ask all the time.
'Cause there was no color. No color, no, 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 but the color of love, yeah. No more white is right, no more brown is down, no more hues of blue. No more name or class, but the radiance of love. Up above.
Voilà, c'était cette interview avec Manu Galvin, à travers laquelle on écoutait pas mal d'extraits musicaux, là encore. Maxime Le Forestier pour San Francisco. Manu Galvin avec Christophe Marois pour le Ode to Billy Joe. Manu Galvin pour La Cage aux Oiseaux, repris à Pierre Perret, bien sûr. Jean-Jacques Milteau dans Blue Third. Les Raptou avec Le Clan des Siciliens. Le jingle extrait radio avec le fou rire de Manu Galvin, ça s'était capté sur TSF Jazz autour de 2011. Le générique de Taratata signé Jean-Jacques Goldman. Le générique de Pop 2 signé Serge Gainsbourg. You've Got a Friend interprété par James Taylor. Et puis ensuite Antoine Boyer avec Century Old. Solar Azaf pour un petit extrait solo live en 2012. Manu Galvin et Michel Aumont, les copains d'abord, empruntés bien sûr au répertoire de Georges Brassens. Larry Carlton avec Sleepwalk. Et puis Manu Galvin pour la guitare blues, présentation justement chez E-Music School. Et on vient de terminer avec Galvin, Milteau, Robinson et Smith, The Color of Love, extrait d'un album qui s'appelait Consideration, enregistré pour Columbia en 2011. Voici 50 Years After avec David Honeyboy Edwards. On va écouter immédiatement ce titre qui s'appelle Catfish Blues.
Well, if I were a catfish swimming in deep blue sea, all these women are now fishing after me, fishing after me, fishing after me. Well, I'm going, yes, I'm going, and your crying won't make me stay. More you cry, darling, now, now, fuzz you drive me away, 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 fuzz you drive me away. Yes, I'm gone, yes, I'm gone, and your crying won't make me stay. More you cry, darling, now, now, fuzz you drive me away, 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 fuzz you drive me away. Papa, just a day before I was born, boy, shall I come now, now, gonna be a rolling stone, gonna be a rolling stone, gonna be a rolling stone, gonna be a rolling stone.
Voilà, jusqu'à la fin, Monsieur David Honeyboy Edwards avec Catfish Blues. On était dans l'album Blues, Blues, Blues sur le label Roots. On peut pas faire mieux en 1975. Et puis 50 Years After, c'est une semaine sur deux dans Sweet Home Chicago d'alternance avec les incontournables. On termine ce 1281e Sweet Home Chicago avec, comme on l'a commencé en première heure, Tad Robinson, This Time, extrait de Soul in Blue. «
thought she'd be mine. But I dreamed of her all the time. Hey, hey, yeah. Ooh, love took a real long time. Yes, good luck can smile on God. I never thought she'd be mine, but I dreamed of her all the time. And change can come that feels so right. Oh, I know this time.
Merveilleuse voix de Tad Robinson pour conclure cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Nicolas Day en deuxième heure pour sa carrière, son actualité et celle des Mockingbirds. En première heure, vous aurez eu le 57e épisode de Beatles Song Story par Jackie Emery. Il me reste quelques secondes pour vous parler des autres invités du mois de juin. Le 14 juin, ce sera le 60e My Rockers avec Richard Renaud qui vous parlera de punk et de hard rock. En deuxième heure, Jean-Christophe Panicot pour une carte blanche sur le thème pré-war blues, deuxième partie, et puis du live en studio. On va être dans le contraste. Le 14 juin. Le 21 juin, ce sera en première heure René Huger et Charline Huger, sa petite fille, pour nous parler de l'édition 2025 du Mojev Blues Festival des 1er et 2 août prochains. Et en deuxième heure de ce 21 juin, ce seront Andrew Duncanson et Michael Peloquin pour leur carrière et leur actualité. Et puis, on terminera le samedi 28 juin avec Jacques Perrotte, Michel Caro et Laurent Picot pour le Blues Héritage numéro 9 à propos de Laurent Picot. Et en deuxième heure, Joe Calais pour sa carrière, son actualité avec le groupe Joe Harpo. Voilà pour les invités du mois de juin, puis ensuite il y aura encore une ou deux émissions en juillet avant les rediffs. Rendez-vous bien sûr sur le Facebook Sweet Home Chicago pour décider de vos propres rediffs dans très peu de temps. Salut, bye bye. Back to that same old